Bienvenue sur le podcast des Palabres et des Actes, le podcast qui prône le développement personnel au sein de la communauté afro-caribéenne. Je suis Mame Kankou Traoré, la cofondatrice de la société Batiboum, et je reçois aujourd'hui mon amie Rokeya Diabira pour le thème « Le couple, le socle d'un épanouissement personnel ». Bonjour Rokeya.
Bonjour Mame, comment tu vas?
Ça va et toi? On a enfin trouvé le temps d'enregistrer cet épisode. Je suis ravie de te recevoir.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux te présenter à la communauté des Palabres Acteurs et expliquer ton parcours?
Bonjour à tous, bonjour à toutes, la communauté des Palabres Acteurs. Je suis Rokeya Diabira. Je suis la fondatrice de la marque Yonkisaha, qui est une marque de bien-être, qui propose des produits pour le bien-être des femmes, des hommes aussi, avec des senteurs, des tisanes. Je suis également la fondatrice de la marque Wayaboro, donc qui est une marque de vêtements. Et aussi, j'ai une boutique ici à Dakar, où je propose les produits et aussi un club exclusivement réservé aux femmes pour discuter, échanger. Voilà, principalement mes activités.
Et je rajoute effectivement que Rokeya fait du coaching, donc elle ne l'a pas dit. Elle fait du coaching auprès des couples, des femmes et des hommes aussi, n'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait. Nous avons aussi des hommes et on fait des rendez-vous, le rendez-vous des gentlemen pour les hommes, pour vraiment l'art d'être un homme, l'art d'être un gentleman comme il se doit. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités qui sont tournées autour du développement de la femme, du couple et aussi les hommes qui doivent aussi mettre leur grain de sel, bien sûr.
Évidemment. Du bien-être, entre guillemets, hein, parce que c'est vraiment le bien-être ton credo, d'après ce que je comprends. Du coup, tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce qui t'a amené à traiter ces sujets-là? Parce que finalement, tu le traites à travers toutes tes activités.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le bien-être se retrouve à travers tout ce que je fais. J'ai commencé il y a quelques années, donc un peu plus de 10 ans. J'habitais encore en France. Et en fait, j'avais commencé par la vente de lingerie. C'était vraiment de la lingerie dans la séduction. Mais petit à petit, en fait, on voyait qu'il y avait un souci dans la communauté, dans la diaspora africaine, où il y avait énormément de tabous autour du couple, de l'intimité. Et donc, du coup, il y a 10 ans, ça veut dire que c'est vraiment dans le début du mariage, pour la communauté, en tout cas, avec qui je travaillais. Du coup, il y avait un grand manque, donc des problèmes liés au mariage. Il y avait des problèmes liés notamment à l'excision, manque de désir, manque de plaisir, beaucoup de maux qui étaient là. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait vraiment tout seul. On a commencé à donner des conseils petit à petit, et puis c'est devenu vraiment une grande communauté où on a commencé à vraiment libérer la parole, où les femmes se confiaient. Et puis c'est là que le coaching est devenu essentiel, est venu en fait tout seul.
D'accord. Oui. Et est-ce que, parce que bon, on sait que dans la communauté, il y a beaucoup de tabous, est-ce que les femmes et les hommes que tu as rencontrés ont des difficultés à en parler? Et quelles sont justement les principales difficultés? Je sais que tu en as cité quelques-unes, mais quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer justement dans le couple?
Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a 10 ans, on peut dire que 10 ans, c'est loin, et à la fois 10 ans, c'est rien. Mais les gens avaient beaucoup, beaucoup de mal. En fait, même au départ, quand j'ai commencé à parler de manière libérée de sexualité, mais vraiment toujours en mettant les formes, hein, parce que les familles derrière...
C'est important.
Mais vraiment, parler de sexualité sans tabou, mais tout en respectant les personnes avec qui on parlait, tout en mettant des barrières. Mais quand on était en intimité avec les femmes, quand on faisait des groupes de discussion, c'était vraiment libérer la parole. Et en fait, les hommes ou les femmes qui venaient étaient assez timides. En fait, elles avaient peur d'être jugées. On parlait par exemple, pour parler des thèmes, on parlait d'éjaculation précoce, on parlait de manque de désir, manque de plaisir, de mariage forcé, vraiment des choses assez profondes. C'est des mots, en fait, de la société. Donc, c'est pour ça que c'est pas perçu comme un tabou, mais comme des mots, en fait. Vraiment, comme des choses qui étaient essentielles d'en parler. Parce que quand on a tous ces mots-là, on n'est pas dans son mariage, on est à côté de son mariage. Quand tu es dans un mariage où tu n'es pas du tout en phase avec la personne avec qui tu es, on peut dire que c'est assez compliqué en fait. Donc vraiment, on abordait vraiment des thèmes qui touchaient directement les personnes qui venaient vers nous.
Clairement. Donc, si je comprends bien, tu as rencontré des femmes qui ont vécu un mariage forcé?
Il y a eu énormément de femmes qui ont vécu un mariage forcé, des femmes qui sont mariées autour de 17 ans, 15 ans,
Waouh.
qui après, par la suite, pour certaines, ont vécu un mariage, après, ça a été de l'amour, peut-être l'habitude, peut-être l'amour. Il y en a qui ont divorcé, il y en a qui ont refait leur vie, mais vraiment, il y a tous les cas de figure. Parce qu'en fait, c'était vraiment une génération qui a vécu ça. Parce que c'est vrai que les temps ont changé, les temps ont évolué. Mais
Oui.
c'était vraiment une communauté qui a vécu vraiment des choses, ce genre de choses. Même si aujourd'hui ça existe toujours, hein, le mariage forcé.
C'est
Mais c'est
fou, c'est fou. C'est fou de se dire que en 2023, il y a encore des personnes qui sont obligées de vivre avec quelqu'un qu'elles n'ont pas choisi en fait.
encore.
Et oui, moi sinon, ce que je relève aussi, c'est que dans beaucoup de communautés africaines, il y a un grand tabou autour de la sexualité. Et c'est vrai que souvent, les femmes arrivent au mariage, elles n'ont jamais eu l'occasion de parler sexualité dans leur entourage. Et du jour au lendemain, parce qu'elles sont mariées, ça y est, c'est comme si voilà, le carton est élevé et elles peuvent maintenant en discuter. Et finalement, ça passe du tout au rien, enfin du rien à tout plutôt. Et je ne sais pas si tu as rencontré ce genre de cas de figure où les femmes te disent, moi, avant, je ne parlais pas du tout sexualité dans mon entourage et aujourd'hui, en fait, le discours a changé parce que je suis mariée et c'est limite trop cru pour moi.
Tout à fait, ce que tu dis, Mam, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a des communautés ou des cultures qui ne parlent absolument pas de sexualité avant le mariage. Prends l'exemple, par exemple, de la communauté Soninké ou de la communauté Peul ou Poula, où la sexualité, enfin, avant, en tout cas, maintenant ça change, était un peu plus tabou. Donc, comme tu l'as dit, avant le mariage, en fait, c'est quelque chose qui est interdit. Mais dès qu'on te met le voile, le jour où tu dois aller chez ton mari, on va te donner les secrets de femme, comme on dit, avec tout ce qui est tchep, on va dire, khamare, vétiver. On va te donner tout l'attirail de la femme mariée, les lingeries, les bin-bin, les tchouraï. On va te donner tout, alors que, moi, je prends mon exemple. Quand je me suis mariée, on m'a donné un trousseau, comme tout le monde. On nous donne tout un trousseau, n'est-ce pas? Et
N'est-ce pas?
ça, on te donne un trousseau. Mais quand tu sais pas quoi en faire, parce qu'il faut savoir utiliser, évidemment,
Tout à fait.
l'éducation sexuelle, mais au moins en parler.
Exactement.
Comparé au Wolof, par exemple, où on en parle un peu plus de manière libérée, on en parlera plus tard. Mais il y a des cultures où, effectivement, c'est un peu tabou, en fait.
Mais c'est vrai que c'est bizarre en fait de se dire toute ma vie on m'a pas parlé de ça et le jour J on te donne un trousseau sans même t'expliquer ce à quoi ça correspond. C'est vrai que enfin pour moi c'est un peu bizarre de me dire voilà on passe du statut d'enfant au statut de femme mariée et finalement il y a pas de transition directe.
C'est vrai, il n'y a pas de transition directe et c'est ça qui fait que quand tu rentres dans le mariage, tu n'as pas forcément les armes nécessaires pour pouvoir avancer dans ton mariage. Et tu attends beaucoup de l'homme en fait pour qu'il te montre, et l'homme il attend beaucoup de toi pour que tu sois cette femme-là déjà, déjà la femme fatale en fait.
Ouais.
On ne naît pas femme fatale, on devient femme fatale.
Bien sûr.
Des conseils, c'est vraiment avec l'expérience, c'est vraiment avec le temps qu'on apprend à être une femme dans tous les aspects de sa vie. Mais c'est pas du jour au lendemain, on te donne le trousseau et ça y est, on te dit t'es libérée, on t'enlève les chaînes et tu dois aller, tu dois aller assister au lit et au mariage. Dans le mariage, c'est pas. Ben je pense qu'aujourd'hui ça a quand même changé parce que les jeunes femmes sont beaucoup plus aguerries aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de coachs, entre guillemets. Enfin, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a que toi, si tu n'as pas envie de
Ouais.
comprendre, tu ne comprendras pas. Alors que nous, quand on s'est mariés, en vrai, il n'y avait pas tout ça. Sauf si tu as une tante qui djongé, qui va t'en parler.
Alors, du coup, c'est quoi le jogé? Parce que tu en parles, mais tout le monde n'est pas sénégalais, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, c'est quoi le jogé?
Alors, le djongé, c'est vraiment le fameux mot qu'emploient les Sénégalaises pour expliquer, pour déterminer, pour qualifier la femme par excellence, la femme fatale, on va dire. C'est vraiment c'est tenir et choyer son homme, la femme qui va bien s'en occuper, que ce soit au niveau du ventre et du bas-ventre, si je puis me permettre de dire ça comme ça. La femme qui le fait crier, qui le fait hurler. C'est vraiment la femme, pas forcément dans la beauté, hein, mais c'est vraiment dans le gestuel. C'est vraiment la femme qui va bien cuisiner, qui va bien s'occuper de son mari, qui va bien savoir lui parler, etc. Après, maintenant, il faut faire très attention parce que le mot djongé, on a tendance à le limiter à l'aspect, entre guillemets, sexuel, alors que le djongé, ça représente un ensemble de choses. C'est l'art d'être djongé.
Ouais, c'est un art en fait.
Tout à fait, c'est ça. C'est tout un art, en fait. L'art de cuisiner, l'art de s'occuper de son mari, de s'occuper de son foyer, de s'occuper de sa belle famille, parce que le mariage ne se limite pas simplement au mari, c'est vraiment étendu à tout ce qui tourne autour du mariage. Donc le djongé, c'est vraiment un ensemble de choses, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, où le djongé, c'est juste allumer son churai et mettre un bon parfum et une belle lingerie, c'est pas que ça.
Bon, avant que tu nous dises justement à quoi ça consiste le djongé, j'ai l'impression quand je t'écoute que ça va que dans un sens en fait, parce que là tu parles du fait de s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa famille, etc. Mais et l'homme dans tout ça, est-ce que lui a une part de djongé
Évidemment, même si la femme est djongé et l'homme n'est pas djongé, ça ne sert à rien. Et le problème, c'est ça, c'est le mot de notre société. Vraiment, pour être honnête avec toi, il y a énormément de femmes qui sont djongées, justement, et qui ne sont pas face à un homme qui est djongé.
qui n'ont pas de retour,
L'homme,
ouais.
il n'est pas djongé, il est mort. Parce qu'en fait, comme on dit en Wolof, nyari lor onyo ifo tante. Donc, si l'homme, il ne fait rien et qu'il se limite à recevoir, le mariage n'avance pas. Un homme doit être tout aussi djongé. Il y a le djongé masculin, il y a le djongé féminin. Donc, c'est le sens même du mot romantique, en fait. Donc, un homme, il doit être romantique, il doit être avenant, il doit être doux avec sa femme, il doit lui accorder la sécurité. Donc, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes aspects, mais une femme djongé, elle doit être face à un homme djongé. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Mais le djongé s'applique aussi bien à l'homme que à la femme. C'est vrai qu'on a tendance à dire à la femme d'être djongé, d'être ci, d'être douce, d'être ci, d'être ça. Mais l'homme, c'est vrai, comme tu l'as dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle aussi doit,
Bah
et
oui.
aussi doit donner.
Et clairement, je ne pense pas qu'on donne un trousseau à l'homme quand il se marie. Enfin, je ne sais pas d'ailleurs.
Ben on devrait. Je pense qu'on devrait. Mais dans le trousseau de la femme, il y a beaucoup de choses pour l'homme, hein, c'est ça. Mais on
Oui, non, mais il y a beaucoup de choses pour l'homme, mais ça vient de la femme, donc de la fiancée, de celle qui se marie, celle qui arrive. Mais lui, l'homme, quand il arrive. Est-ce qu'on lui donne, à part lui donner des conseils de vérité, moi, tiens, j'aimerais bien être une petite souris et voir ce qui se dit, ce qui se dit à un homme le jour de son mariage. Parce que moi, honnêtement, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de conseils,
Ouais.
beaucoup trop. C'est un jour où, en fait, t'as pas vraiment la tête à ça, et en fait, on te donne tellement de conseils, tellement d'informations, mais c'est difficile de tout capter ce jour-là. Donc, c'est pour ça que je dis que normalement, il devrait y avoir une phase de transition pendant laquelle, bon, après, ça se fait peut-être, hein, dans certaines cultures, en tout cas, nous, dans la nôtre, ça n'a pas été le cas.
C'est
Voilà.
vrai, oui, tu as tout à fait raison, c'est vrai, en fait, il devrait avoir une éducation pour l'homme. C'est pour ça, justement, d'ailleurs, on a mis en place le rendez-vous des gentlemen, parce qu'on estime que les hommes ne sont plus, ou je sais pas, ne sont pas avenants, en tout cas, notre génération, ils ne sont pas assez avenants. En fait, on leur a tellement dit qu'ils doivent recevoir qu'ils oublient parfois de donner, même si
De
ne sont
données.
pas dans le même cas. Mais on devrait aussi mettre en place, pourquoi pas, je pense que c'est quelque chose auquel on va penser, des trousseaux que les copains devraient offrir. Après, c'est vrai qu'ils ont un peu plus de pudeur quand même. Peut-être que c'est le respect par rapport à la femme, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est l'homme lui-même qui doit prendre le trousseau en main, parce que voilà, on est quand même dans une société qui reste quand même traditionnaliste et pudique. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais.
Oui, mais ça n'empêche, enfin, ça reste un cadeau déjà. La personne est libre de l'utiliser ou pas. Mais en même temps, justement, je pense que ça l'inspirerait à lui-même d'être dans cette optique de donner à sa femme et de se dire que je ne vais pas juste recevoir. Moi aussi, j'ai donné le meilleur de moi-même dans mon couple. Parce que pour moi, le couple, c'est un partenariat en fait. C'est pas juste. une union de deux personnes, c'est un partenariat sur le long terme. On est amoureux, certes, mais après d'abord on est amis, on est parents, donc on traverse beaucoup de choses, on est souvent associés aussi dans les affaires. Donc voilà, c'est important aussi que chacun se sente à sa place et se sente aimé, se sente soutenu. Donc voilà.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est mon avis.
Ça c'est vrai. C'est vrai que l'homme aussi il doit être assez assez préparé. L'homme devrait être assez préparé. Je pense qu'il faudra qu'on mette les choses en place pour ça. Et ça, nous aussi, cette génération-là, de faire en sorte que nos maris, déjà ceux qui sont mariés, puissent être armés. Et pour surtout la nouvelle génération à venir. Parce qu'il y a tant de divorces, justement. Parce que, en fait, les gens ne se rendent plus compte de la valeur du mariage. Ils ne se rendent plus compte de tout ce qu'ils doivent donner, de tout ce qui est essentiel dans le mariage, en fait. On le limite.
C'est
peut-être
ça.
À l'aspect sexuel, alors qu'il y a plein d'aspects à prendre en compte et qui sont négligés. Donc oui, les hommes doivent être mieux éduqués, mieux préparés aussi, hein, pas que nous.
Après, moi, c'est ma philosophie. Pour moi, c'est un tout. Et je sais que voilà, c'est quelque chose qu'on a souvent abordé ensemble, le fait d'être déjà bien dans sa tête avant de rentrer dans un mariage, c'est aussi important parce que justement pour ça, pour pouvoir être complémentaire à son homme, je suppose que c'est des choses que tu expliques dans ton coaching.
Exactement, et tout à fait. La femme, si elle n'est pas heureuse toute seule, si la femme n'est pas bien, c'est pour ça qu'en fait, nous, on met vraiment notre... en fait, c'est un peu paradoxal parce que les gens vont avoir tendance à croire que nous, notre but, c'est que le couple, mais c'est d'abord la femme. C'est vraiment notre mission, c'est vraiment que la femme soit heureuse parce que la femme, c'est le pilier, c'est le socle, c'est le socle de la vie, en fait, du couple, de la vie, de la famille. Donc, une maman qui est bien, une femme qui est bien, c'est vraiment toute la famille qui va être. Mais une femme qui est en mal-être dans sa peau, tu peux pas élever tes enfants quand t'es pas bien. Tu peux pas donner du positif quand toi-même tu as beaucoup de négatif dans ta tête, dans ton esprit, dans ton corps. Tu peux pas donner de l'amour, tu peux pas donner du positif. Tu vas faire de ton mieux évidemment, mais tu peux pas te donner pleinement parce que tu n'es pas assez épanouie, tu n'es pas assez bien.
C'est vrai. Enfin moi, à titre personnel, je le vois dès que je suis, j'ai une baisse de régime, j'ai une baisse de. Enfin voilà, ça se ressent au niveau de la maison. Et je suppose que c'est comme ça un peu partout. Quand la femme ne va pas bien, effectivement, ça se ressent à tous les niveaux de la famille. Donc c'est important qu'elle soit bien. Et du coup, comment ça se matérialise en fait chez Yonkisara, les coachings? Comment vous matérialisez cet accompagnement justement auprès des femmes? Pour les hommes, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais peut-être que tu peux le répéter.
Alors en fait, déjà pour les coachings, comment ça se passe concrètement? Quand les personnes viennent nous voir, soit ils viennent directement pour un produit, pour un problème. Mm-hmm. Je peux parler de, sans tabou, hein, je peux parler de l'éjaculation précoce.
Mais vas-y.
Je peux parler de l'éjaculation précoce, je peux parler de manque de désir, manque de plaisir, ou bien trahison dans le couple. Ça peut être différentes choses. Alors, il faut savoir que les gens ne viennent pas que parce que ça ne va pas. Hein. Ils peuvent venir parce qu'ils ont envie de changer, ils sont mariés depuis un certain moment, ou bien ils vont se marier, ils ne savent pas vraiment comment faire. Donc, chaque cas est différent. Mm-hmm. Et en fonction de chaque personne, je fais une écoute active. Je parle avec la personne, on va vraiment dans les profonds. Vraiment, je parle avec la personne. Je ne suis pas psychologue, évidemment, mais j'estime que c'est important d'écouter les gens, d'écouter vraiment les choses que la personne dit. Parce qu'il y a des choses qu'on va dire et que nous, ça ne résonne pas forcément chez nous. Donc, nous, en les écoutant, on arrive à percevoir. Il y a des choses aussi, je pense que c'est Dieu qui m'a donné ça, machallah. Il y a des choses que j'arrive à sentir. J'arrive à sentir le cœur de la personne. Quand une personne me parle, j'arrive à aller dans ton cœur, j'arrive vraiment à percevoir là où le mal est. Donc, c'est vraiment d'abord avec une écoute active et après, évidemment, on met en place des choses. Essayer de comprendre pourquoi telle ou telle chose ne va pas. Et souvent, on fait parfois, pas souvent, mais parfois on fait appel à l'homme quand il est ouvert là-dessus parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on rentre dans leur couple, qu'on discute, etc. Parce que c'est quand même le couple. Donc, parfois, on fait des médiations, on essaie de discuter avec l'homme pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour vraiment donner des outils pour que ça ce soit plus fluide. Mais voilà, déjà, c'est vraiment l'écoute. C'est ça la première clé, c'est l'écoute. Et aussi donner quelques astuces, quelques petits secrets à la femme pour avancer. Mais il y a des femmes qui vont faire énormément d'efforts. Et quand on l'aide, la femme, et que l'homme derrière, ça passe pas. Parce que la femme, elle a beaucoup d'efforts. Et que le mari derrière, il n'est pas assez réceptif, ou que le problème vient de l'homme, là, c'est très compliqué.
Oui, après, c'est sûr que de toute façon, tu ne peux pas faire des miracles. Si dans un couple, il y en a un qui n'est pas réceptif, c'est clair que ça va être compliqué.
C'est ça.
Mais ouais, moi, je voulais rebondir là-dessus. Quand tu disais que que tu ressentais le cœur des gens, de toute façon, je ne vais pas le cacher, on est amis. Et c'est vrai, je confirme. Roca, c'est quelqu'un qui peut te dire exactement ce que tu ressens, alors que toi-même, tu ne sais pas ce que tu ressens. Il y a des moments où tu ne vas pas bien, tu appelles Roca, elle te dit, mais c'est ça qui va pas. Et c'est comme si, effectivement, elle le voyait. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment ton coaching, parce que bon. Moi, je n'ai pas suivi de coaching à proprement parler, mais c'est vrai que tes conseils sont très, très utiles, très pertinents. Et ça permet même quand ça va pas, enfin, ce n'est pas que quand ça ne va pas dans son couple, mais quand ça ne va pas tout court ou quand ça permet juste de se remettre en question, en fait. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas
Oui.
ou dont on n'est pas conscient. Et le fait d'en discuter, le fait de juste d'avoir un avis extérieur, ça permet de se remettre en question justement et de trouver des pistes d'amélioration. Voilà. Donc moi j'incite vraiment
Merci
pour que
beaucoup
tu rigoles.
de dire.
Non mais c'est important d'avoir ce retour, parce que bon, moi je le précise, elle refuse de me coacher, mais j'arrive de temps en temps à avoir des petits des petites astuces, mais elle refuse de me coacher. Donc ça, faut que je sois honnête là-dessus. Mais voilà, donc même si j'ai pas fait de coaching à proprement parler, je peux très bien témoigner du fait que de la pertinence de tes acti de ton action.
C'est très gentil à toi.
Bon, excusez-moi. Du coup, je voulais que tu reviennes sur le fameux djongué. Bon, je suis désolée, on dit le djongué, mais tout le monde n'est pas sénégalais dans ceux qui écoutent. Donc peut-être que je vais. Comment on peut le traduire d'ailleurs en français? Tiens, c'est marrant. Le djongué,
Bah, la
le.
femme fatale, en fait, peut-être que ça peut être une. C'est pas un synonyme, mais je pense que la femme fatale, ça peut être une traduction. C'est la traduction qui est la plus proche, je pense. La femme fatale, vraiment, la femme. Bon, après, la femme fatale, elle est un tout petit peu mystérieuse, inaccessible. La djongé, elle donne tout. Mais peut-être que c'est ce qui ressemble le plus, la femme fatale.
D'accord. Parce que ouais, donc je vous ouais, bon, je suis pas convaincue par le terme femme fatale, mais bon, comme j'ai rien d'autre à côté, je vais m'incliner. Je vais m'incliner. Donc je vais dire l'homme fatal et la femme fatale. Quelle est la place de la sexualité dans le djongéisme? Parce que tu disais que c'est pas que ça. Mais bon, sans donner de ratio. Pour toi, quel est le secret pour réussir son couple, en fait?
Bah, déjà pour le secret pour réussir son couple, déjà c'est déjà il n'y a pas de couple heureux. Si la femme n'est pas, enfin, si chacun des entités n'est pas épanoui. Donc, ça, c'est pour la réussite du couple. Donc, j'imagine que réussite, c'est l'épanouissement, c'est être heureux. Donc, pour que
Exactement.
chacun, dans son individualité, soit épanoui, soit heureux. Pour avoir un équilibre durable et solide, pour pouvoir atteindre le sommet du bonheur, je pense qu'il faut être heureux, chacun, dans son individualité. Je pense que déjà, c'est la
D'accord.
chose. Donc, pour y accéder, il faut déjà avoir confiance en soi. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir la confiance en soi. Il ne faut pas croire qu'en rentrant dans le mariage, le mari ou le partenaire va combler un vide qui est en nous. Si on a eu une enfance qui a été difficile ou si on a un trou dans sa vie, il faut pas se dire que cet homme-là va venir combler ce trou-là. Parce que peut-être qu'il fera de son mieux, il n'y arrivera pas. Et il a aussi ses propres blessures, il a aussi ses propres problèmes. Donc déjà, la première chose, c'est que la femme, elle apprenne non seulement à avoir confiance en elle, mais aussi à pouvoir se guérir elle-même. Voilà. Donc l'homme, il est là pour compléter la femme, certes, mais il n'est pas là pour tout combler. Il ne peut pas tout combler. Donc, pour être heureux en couple, il faut déjà avoir, il faut être heureux seul. Il faut pouvoir se dire, ah là là, je me regarde, je suis bien, je suis heureuse, je suis épanouie. Quand tu vas attendre à tout prix que l'homme te comble à tout prix, en fait, souvent tu vas être contre un mur, en fait. Tu vas être face à un mur, tu vas être malheureuse, en fait. Ce que tu rejettes, avoir le contraire, selon moi.
Ok. C'est pas faux. Et du coup, est-ce que, alors là, c'est une question qui me vient comme ça, parce que souvent, on a tendance, quand on est en couple, à vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble, voire tout. Est-ce que c'est important d'avoir des moments de solitude? En fait, des moments où on se retrouve soi-même.
En fait, j'ai envie de dire, chaque couple est fait différemment. Il y a des personnes qui se retrouvent, qui trouvent leur bonheur en étant ensemble. Il y a des personnes qui trouvent leur bonheur en étant solitaire. Ça dépend de chaque couple. Et le problème aussi, même dans le couple même, on peut avoir un solitaire et un qui a besoin justement d'affection, qui a besoin de douceur, etc. En fait, il faut trouver son équilibre. Il faut être à l'écoute de l'autre. Il faut être dans la communication. Il faut vraiment comprendre l'autre. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, on a tendance à vouloir beaucoup de l'autre et on ne sait pas ce que l'autre veut en fait. Donc je pense que cette réponse-là, c'est pas oui ou non, c'est plus être à l'écoute de son partenaire. Il y a des personnes qui ont besoin de solitude, même si dans l'idéal on se dit oui, on a tous besoin d'un jardin secret, on a tous besoin de moments à soi, etc. Mais il y a des personnes qui sont pas comme ça. Donc ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une vie à côté, entre guillemets. Quand je dis une vie à côté, c'est pas aller voir ailleurs.
Oui, précise bien.
Mais il faut avoir ses choses à côté, il faut avoir ses amis à côté, parce qu'il y a des personnes, dès qu'elles se marient, elles ont plus d'amis, elles ne rencontrent plus personne, elles ne vont plus au
Oui.
restaurant, elles ne font plus de sport, elles ne font plus rien. Il faut avoir une vie sociable, une vie sociale, pardon, à côté. Il faut sociabiliser, faire du sport, passer ton permis, être indépendant financièrement, faire des choses qui t'appartiennent, parce que le couple n'est pas une finalité. Tout peut s'arrêter. Donc, il faut vraiment t'accomplir personnellement et être heureux. Après, tu pourras être heureuse en couple. Tu peux faire tout ça et que ce ne soit pas le cas, mais au moins, si tu te dis, okay, j'ai la plénitude, j'ai la sérénité pleine, là, je pense que tu auras déjà fait un bout du chemin.
C'est très, très, très pertinent ce que tu viens de dire parce que moi, d'expérience, hein, je connais des femmes qui se sont mariées et qui ont coupé les ponts carrément avec leurs amis qui n'étaient pas mariés. Et ça, justement, je tiens à le souligner en quoi c'est dangereux parce que le jour où tu te retrouves et que, parce que malheureusement, le divorce existe, malheureusement, il y a des moments où ça ne va pas et il n'y a qu'entre femmes qu'on peut se soutenir, qu'on peut se. Mais si tu n'as plus d'amis derrière, si tu n'as plus d'amis parce que justement tu t'es mis en couple et que tu as renié tout le monde, c'est compliqué. Donc ça, pour les jeunes en tout cas qui ne sont pas mariés ou en tout cas celles qui ne sont pas encore en couple, gardez-le en tête. C'est bien d'avoir, comme tu dis, d'avoir ta propre vie à côté avant de sauter corps et âme, j'ai envie de dire, dans le couple et de
C'est
t'oublier.
ça.
Parce que.
Si. Ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, maintenant, il y a une nuance aussi parce que quand tu te maries et que tu sors du camp des célibataires, c'est plus la même chose. Tu vas pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt qu'avec une personne qui n'est pas mariée. Toi, quand tu dois te dépêcher pour aller faire la cuisine ou bien aller faire certaines choses, l'autre, elle voudra sortir, aller au restaurant. Tu n'auras pas forcément le même temps. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre. Et essayer aussi, les copines qui ne sont pas mariées, de comprendre que la personne qui était avec vous, qui était mariée aujourd'hui, enfin, qui est mariée aujourd'hui, elle a une vie qui a changé. Donc, il faut essayer de comprendre. Donc, il faut être dans l'empathie et comprendre aussi la personne, se mettre à sa place, comprendre qu'elle ne peut plus être cette même personne. Et vous, enfin, et la personne qui est mariée doit comprendre aussi qu'elle ne peut pas non plus toujours comprendre que tu ne puisses pas être disponible tout le temps avec elle. Et aussi, quand tu es mariée, navré, c'est un peu long. Mais
Non, vas-y.
quand tu sors avec tes amis, il ne faut pas tout le temps exposer ton bonheur. Moi, mon mari, il a fait ci. Moi. Parce que ça peut être difficile, en fait, pour la personne qui est en face. Elle parlait avec toi d'autre chose. Vous étiez dans une autre atmosphère. Et là, du jour au lendemain, tu exploses ton bonheur comme ça. Elle va être évidemment heureuse pour toi, mais trop en parler, ça peut créer de la jalousie ou bien créer de l'envie. Enfin, sans intentionnel. Donc, il faut vraiment prendre les mesures, il faut vraiment faire attention. On peut être dans le couple et vivre son couple pleinement et continuer à avoir ses amis, qu'elles soient célibataires ou mariées, vraiment en juste mesure en fait.
Bah, c'est clairement, c'est ça, c'est que moi je me dis à partir du moment où vous êtes amis, même si effectivement ce sera plus la même les mêmes relations, parce que forcément ça va changer, vous aurez plus les mêmes sorties, les mêmes centres d'intérêt, mais à partir du moment où on est amis, on peut se dire les choses en fait. Donc tu dis clairement à ton ami, bah, je serai moins disponible. Enfin, de toute façon, c'est un fait. Donc la personne va le comprendre rapidement. Mais de là à couper les ponts, moi c'est ça qui me gêne en fait avec certaines personnes. Ouais. C'est de couper les ponts parce qu'elles sont en couple. Je veux dire, être en couple, ce n'est pas une raison pour abandonner ta famille, abandonner tes amis, abandonner ton travail, peu importe. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait.
C'est ça.
Si tu te bases aujourd'hui sur ton bonheur du jour, bah dis-toi que le lendemain, quand ça n'ira pas, tu n'auras personne envers qui te tourner. C'est ça, en fait. Moi, c'était ça, mon point. Après, je comprends et effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout est une question d'équilibre, au final.
Tout à fait. Tout à fait.
Tout est une question.
Après, maintenant, quand vous avez des personnes qui sont dans ça, il ne faut pas forcément les rejeter tout de suite parce qu'il y a des personnes qui peuvent être sous l'emprise aussi. Hein. Faut faire attention. Il y a des femmes qu'une fois qu'elles sont mariées, elles sont sous emprise. Elles peuvent être avec un pervers narcissique, etc. Alors, on coupe les ponts que tout de suite, c'est ça. Mais il y a plusieurs cas. Donc, si vous êtes vraiment amis, il ne faut pas se dire tout de suite, OK, ça y est, elle est mariée, elle s'en fiche de moi maintenant, elle fait sa vie. Il faut peut-être essayer de comprendre pourquoi elle a changé. Parce que le mariage, c'est vraiment
un
monde. C'est une autre vie. Il ne faut pas croire que parce qu'on est marié, on est forcément heureux. Il y a énormément de souffrances dans le couple. Donc, quand la personne
Et
il faut essayer peut-être de comprendre pourquoi elle a coupé les ponts. Est-ce que c'est son mari qui l'interdit de voir sa famille, ses amis? Il y a énormément de cas comme ça. Moi, j'en ai connu énormément sous l'emprise de pervers narcissiques. Et donc, ça, c'est important aussi de le détecter parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Et puis même, la personne qui vit ça, elle ne s'en rend pas forcément compte. Elle va dire, hey, les gars, je me suis mariée il y a un mois et je suis avec un pervers narcissique, c'est cool. Non, tu peux être avec un pervers narcissique. Tu le sais que longtemps après. Donc, voilà, je pense que c'est toujours important, encore une fois, d'être dans l'empathie, d'essayer de comprendre pourquoi la personne, elle agit comme ça, réagit comme ça, même si ce n'est pas facile de comprendre toujours les gens.
C'est pas faux, effectivement. Ok. Bon, donc je vais revenir. Je suis désolée, je reviens encore sur mon jogging. Est-ce que tu peux donner quelques petites astuces? Parce que je pense que ça doit en intéresser pas mal, surtout ceux qui sont pas sénégalais, de savoir c'est quoi ce fameux truc en fait dont tout le monde parle et qu'on ne connaît pas. Comment ça se matérialise en vrai?
Bah, c'est vrai que justement, le djongé, le fameux djongé, c'est vrai que la sénégalaise, en gros, on a cette image-là qui lui colle, qu'elle est djongé, qu'elle est si, que si elle attrape un homme. Bah, d'ailleurs, vous voyez les images qui tournent là sur les réseaux sociaux, le jeune homme, le coach, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est marié avec l'actrice, l'actrice de Maraudi, c'est ça? Et en fait, c'est vraiment la jeune femme très, très jolie qui paraît djongé. Et l'art de djongé, c'est vraiment l'art, par exemple. Je vais donner des exemples précis. C'est la femme qui va, par exemple, quand ton mari rentre du travail, tu vas préparer le dîner, tu vas mettre ta petite bougie. Alors, djongé à l'occidental, hein, pas djongé forcément. Djongé foror foror. Djongé foror. Donc, Jung est modérée, donc elle va allumer sa petite bougie, elle va allumer son petit oreille, elle va mettre le dîner, elle va ouvrir la porte à son chéri, elle va lui enlever la veste, il va s'asseoir. Alors, bien sûr, encore une fois, on est très dans l'image. Hein. Alors, oubliez, qu'est-ce que le mari fait? Bon, allez, on ne va pas être féministe, on va vraiment Jung est, parce que la Jung est, elle est pas, elle attend pas ce que le mari fasse quelque chose tout de suite, c'est après que ça vient, c'est d'abord.
D'accord, ok.
Et c'est le chéri.
Donc... Donc, la djongé, elle met son féminisme de côté elle s'occupe de son mari.
Okay. Un petit moment, d'accord. Donc, on prépare, okay. On prépare le dîner, on prépare sa petite bougie, on a préparé sa petite lingerie en dessous. Et est-ce que je dois tout détailler?
Oh, non, on va garder quelques secrets pour les fameux coaching. C'est ça.
Mais la djongé, c'est vraiment la femme romantique, la femme très avenante, vraiment très, très avenante, qui va vraiment être au-devant des désirs de son mari. Et encore une fois, Bon, on rigole, hein, mais une femme djongé, elle est avec un homme djongé, forcément. Donc, ça veut dire que l'homme djongé, il peut faire exactement la même chose. Sa femme va revenir du travail parce que la femme djongé, quand je dis féministe, bon, on rigole un petit peu, hein. Donc, la femme djongé, elle peut être... Nous-mêmes, on est des profondes féministes parce qu'on est du côté des femmes, mais on peut être aussi du côté des hommes. Donc, l'homme djongé aussi, sa femme, elle peut rentrer du travail, il va lui allumer la petite bougie, il va lui faire couler le bain, etc., etc. Donc, évidemment, c'est vraiment le partenaire, en fait. La femme djongé, c'est être avec son partenaire. Ton mari, c'est pas un rival. Ton mari, c'est un partenaire. C'est la personne avec qui tu as envie d'avancer dans la vie. C'est la personne avec qui, à qui tu as envie de faire plaisir. Tu as envie de faire des petits gestes. Toi, tu peux aller le chercher au travail. Il peut venir te chercher au travail avec une petite boîte de chocolat ou peut-être pas forcément des fleurs, mais avec un petit tourail, hein, tiens, pourquoi pas, un petit parfum de chez Yonkisara, un petit cadeau, un petit... Mais vraiment un petit cadeau, un petit vêtement. Vraiment être djongé, c'est vraiment être avenant, en fait. Je pense que c'est vraiment le mot, être avenant, être pas forcément dans la réserve, mais en fait, tu te donnes corps et âme, en fait. Pour moi, c'est ça. La femme djongé, c'est la femme. Évidemment, aussi, il y a tout l'aspect sexuel qui va avec. Sans tabou, en fait. La femme djongé, elle est sans tabou. Elle va être dans la lingerie, elle peut être traditionnelle, elle peut être moderne, mais c'est vraiment la femme qui s'assume, qui a confiance en elle, qu'elle soit forte, qu'elle soit fine, qu'elle soit, peu importe sa morphologie, elle s'aime et elle s'accepte telle qu'elle est et elle met en valeur ses atouts. Donc c'est la femme qui va se mettre, elle peut se mettre sur ses talons, elle peut mettre son petit pagne, elle peut mettre son petit kimono dessus, elle est séduisante, elle se sent séduisante, elle se dit « Ah là là, celui-là, je vais le maîtriser ». Voilà, c'est l'art de la maîtrise, c'est l'art d'aimer son corps, l'art de pouvoir donner son corps avec subtilité. C'est, la djongé, elle n'est pas vulgaire. La djongé, elle est séduisante, elle est sexy, elle a un sex appeal de malade, mais à la fois, elle est dans la réserve. Donc voilà, pour moi, la définition de la djongé. Donc c'est pour ça que je dis que la djongé, elle ressemble à la femme fatale parce qu'elle est mystérieuse et à la fois, elle donne. Donc voilà.
Je prenais des notes, là.
Bah, tout ce que...
Je prenais des notes.
Je te dis, hein. Tu prends des notes, bien sûr.
Non mais je souris, mais ce que je voulais dire, c'est que finalement, si je résume, en gros, c'est une personne attentionnée, que ce soit une femme ou un homme, c'est une personne qui est attentionnée envers son partenaire, son ou sa partenaire, que ce soit dans les échanges, dans les cadeaux, qui est quelqu'un de généreux, à ce que je comprends. Après, je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir la bougie ou le tourail, mais voilà, c'est de montrer une petite attention. C'est ça. De montrer qu'on est content de voir l'autre, de montrer qu'on s'enquiert de sa santé, de sa journée, de son bien-être. Et voilà, c'est ça, en fait.
Exactement. Bah, c'est ça, parce que la femme djongé, ce n'est pas une femme, dès que son mari rentre, a franchi le seuil de la porte, elle va commencer à lui hurler dessus. Pourquoi tu rentres à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as mis tes chaussettes par terre? Pourquoi tu n'as pas levé la lunette des toilettes? Pourquoi? En fait, elle est sans cesse dans les reproches. Même si ce n'est pas facile, hein, on fait toutes des reproches. Hein, faut la... Parfait, hein, faut pas se leurrer. Mais ce que c'est pas forcément une femme... Elle est plus près de... Elle est plus dans son mariage que dans les reproches, que d'être à côté de son mariage. Parce que parfois, on est dans le couple, mais on est à côté de son mariage, on n'est pas dans son mariage. Et c'est ça la difficulté. C'est que parfois, et la plupart du temps, avec le temps, parfois, on a tendance à... Ben, en fait, on a un pied qui est sorti du mariage, en fait. On joue le grand écart. Quand ça t'arrange, t'es marié, ok. Et quand ça t'arrange pas, ben, en fait, t'es plus dans ton mariage, quoi.
Ah ouais, c'est... ouais. Waouh. Non, c'est puissant ce que tu viens de dire. Ok. Ok, je suis désolée, je suis dans mes notes, je suis dans plein de trucs, là, parce que j'apprends énormément. Oh là. Mais, et du coup... Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens, soit qui sont sur le point de se marier, soit qui sont déjà mariés, qui aimeraient pimenter leur vie de couple? Qu'est-ce que tu peux conseiller à tous ces palabracteurs qui sont en train de nous écouter, qui sont en train de se dire, bah, aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où je suis peut-être déjà en couple, mais en fait, en écoutant Roca, je me rends compte que je fais n'importe quoi. Par où faut commencer, en fait? Par où faut commencer? Si on a déjà commencé, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux? Voilà. Quel type de... Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à nos palabracteurs?
Alors, déjà, moi, je vais commencer par celles qui ne sont pas mariées du tout et qui n'ont personne. C'est difficile. On a une pression folle que c'est la course au mariage, surtout là, ça va être l'été. Il y a énormément de personnes qui se marient. Tu as la petite sœur qui s'est mariée, tu as les meilleurs amis qui se sont mariés. Alors oui, on peut dire que le mariage, c'est pas une fin en soi, mais on a tous besoin d'avoir quelqu'un qu'on aime à ses côtés, qui soit avenante, etc. Donc, faut prends ton temps, ma chérie. Si toi, la palabractrice qui écoute, j'ai envie de te dire, prends ton temps. Le mariage, c'est pas une course. Donc, si t'es pas dans ce cas, prends ton temps, prends le temps de soigner ta vie. Prends le temps de gérer les choses que tu dois gérer dans ta vie. Prends le temps de t'aimer toi-même avant de trouver la personne qui t'aimera. Et si toi,
Absolument.
dans un moment où tu as rencontré la personne, pose-toi la question à savoir si c'est la bonne personne. Comment savoir si c'est la bonne personne? Essaye de peser le pour et le contre. Essaye de savoir ce qui. La personne, elle t'apporte quoi? Quand elle n'est pas avec toi, comment tu es? Le positif qu'elle t'apporte, le négatif qu'elle t'apporte. Donc, essaye de te projeter avec la personne. Quel genre d'époux la personne elle sera pour toi et quel genre d'épouse tu seras avec cette personne-là. Penses-tu que tu seras vraiment heureuse avec cette personne-là? Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, le mariage, c'est du donnant-donnant. Ne te donne pas à fond. Et il y a souvent des femmes qui rentrent dans le mariage en se disant, OK, je vais te donner à fond, je vais tout donner, je vais tout faire. On m'a dit que le mariage, c'est comme ça doit se passer comme si. Et du coup, en fait, dès le début, tu dis à l'homme, non, 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 t'es un prince, laisse-moi, je gère tout. Et à un moment donné, tu te dis, mais le mec, il fait rien. C'est moi qui fais tout. Donc, c'est vraiment tout ce travail dès le début. C'est dès le début qu'on instaure une relation de confiance, une relation de sécurité. Parce que le mariage, c'est avant tout la sécurité. C'est pas simplement une affaire de lit, une affaire de communication, etc. Il faut que tu sentes que la personne, elle te comprend. La personne, elle doit te comprendre et la personne, elle doit te sécuriser. Et pour finir, pour les personnes qui sont en couple, là, c'est plus difficile parce que quand on est en couple, on a pris le temps de mettre beaucoup de mauvaises actions, entre guillemets, hein, en place. On a eu beaucoup de mauvaises habitudes qu'on a mises en place et ce n'est jamais trop tard. Il faut juste voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas et comment faire en sorte que comment changer ces choses-là. C'est facile à dire, mais en fait, on peut le faire quand il reste encore de l'amour, quand il reste encore quelque chose qu'on a envie de sauver. Mais une chose que j'ai envie de rajouter, quand tu arrives à un moment de colère, tu regardes ton mari, tu as envie de le défoncer, excusez-moi du mot, demande-toi pourquoi tu es encore. Et demande-toi pourquoi cette personne-là est encore dans ta vie. Et demande-toi qu'est-ce qui t'a séduit chez cet homme-là. Est-ce qu'il ça existe encore? Et après, pour tout ce qui est pimenter dans le couple, pas pimenter le couple, mais pimenter sa relation de couple. Pimenter le couple, c'est autre chose, mais pimenter sa relation de couple, c'est être avenant au quotidien, c'est de changer de lieu, changer d'espace, faire des choses avec la personne, vibrer avec la personne, le faire rire, la faire rire. Parce que avant tout, c'est les choses simples de la vie, parce que en soi, la relation sexuelle, j'ai envie de dire, ça dure un court instant. Mais la relation de communication amoureuse, etc., ça dure toute la vie. Parce qu'à un moment donné, quand on vieillira ensemble, peut-être qu'il n'y aura plus de relation sexuelle, mais il y aura encore cette amitié, il y aura encore cette passion, il y aura encore ce respect qui va rester là. Donc j'ai envie de dire, pimenter, oui, on pourra en parler, mais d'abord, la relation, elle se soigne en s'aimant, en s'aidant et en étant avec passion ensemble. Et après, évidemment, tout ce qui est l'aspect sexuel, on a envie de faire plaisir à l'autre. Les positions sont plus folles, les choses sont plus fous parce que on est avenant. Voilà pour résumer.
Eh ben, écoute, merci pour tous tes conseils. Moi, je voulais juste revenir sur la femme non mariée à qui tu t'adressais tout à l'heure. Je me permets de conseiller. C'est peut-être le moment, en fait, quand on n'a pas d'enfant, quand on est célibataire, en fait, de se lancer
Oui.
dans un projet professionnel, dans un voyage qu'on a envie de faire, parce qu'on a plus de temps. Quand on est
Oui.
après, c'est plus compliqué, c'est plus fatigant, voilà. Donc peut-être que c'est le moment. Pour se découvrir aussi, parce que la réussite professionnelle aussi, ça permet de se découvrir, de connaître ses limites et d'avoir un
C'est ça.
certain épanouissement. Donc c'est peut-être le moment, si on n'a pas encore trouvé son homme, enfin son homme ou sa moitié, c'est peut-être de se lancer dans ce fameux projet professionnel ou voilà. Donc ça, c'était mon.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. 100%.
Donc voilà, donc sinon, bah, franchement, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour les palabracteurs. Moi, j'ai beaucoup appris en tout cas. Je pense que je vais réécouter
Bah écoute,
l'épisode
merci à toi de
attentivement.
m'avoir permis, de m'avoir invité, de m'avoir permis de parler à tes palabracteurs. Franchement, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Et franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que faut apprendre à s'aimer, en fait. Je pense que pour être heureux en couple, encore une fois, c'est vraiment apprendre à s'aimer. C'est ça. C'est son propre bonheur. Faut cultiver son propre bonheur et ne pas laisser à l'autre la gestion de ses émotions, ne pas laisser à l'autre de nous guérir. Il faut se guérir soi-même avant de rentrer. Et puis même si on est dans le couple, il faut savoir faire la part des choses. L'autre n'est pas forcément un miroir. L'autre ne doit pas être exactement comme nous. Il peut être complètement différent physiquement, moralement, mentalement, etc. Le plus important, c'est de trouver ce qui fera notre bonheur ensemble. Et puis aussi la rancune, j'ai oublié de le dire. Il faut mettre la rancune de côté, pouvoir avancer. Si on a décidé de rester dans le couple, bah dans ce cas-là, il faut aller à fond dans le couple, dans son couple, et faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, même si ce n'est pas tous les jours un long fleuve tranquille. Donc, il faut vraiment prendre sur soi. Et puis voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et je t'en remercie infiniment.
Bah, plaisir partagé. Du coup, pour ceux qui veulent te retrouver, bon, forcément, je mettrai tes réseaux sociaux. Mais ceux qui veulent te rencontrer
Pour Dakar,
à Dakar, comment ils peuvent faire?
Oui, alors à Dakar, nous sommes au Mamel, c'est la cité aviation. Donc, c'est la rue qui est juste en face de la boulangerie Passage du Gourmand. Donc, on est vraiment à l'entrée de la cité. Sinon, je fais des déplacements aussi. Bientôt, un événement en France au mois d'octobre. Donc, voilà, je fais aussi des coachings en ligne, par Zoom, par WhatsApp. Donc, vraiment, je suis assez accessible. Vous pouvez rentrer en contact avec moi directement sur mes réseaux sociaux. Donc, voilà. Mais Yonkisara, c'est vraiment un concept qui se déplace, qui n'est pas figé, en fait. Mais en tout cas, on est sur place à Dakar.
Eh bien, super. Moi, je mettrai toutes tes informations, toutes tes coordonnées, pardon, dans la page du podcast. Et puis, j'espère que les palabracteurs seront friands de ont été friands de tes conseils et voudront continuer la conversation. En tout cas, ça a été un plaisir de te parler.
Ouais.
Ça fait plus d'un an qu'on doit faire cet enregistrement. Ça fait plus d'un an et c'est que maintenant qu'on a eu cette occasion, donc je suis ravie de l'avoir fait. Moi je te remercie, je remercie tous les palabracteurs qui ont écouté jusque là et n'hésitez pas si vous avez aimé à nous mettre un petit like sur votre plateforme d'écoute et à partager cet épisode.
Merci à toi.
À très vite, Yonkisara, sur les réseaux sociaux et sur des palabres et des actes. Bonne journée!